Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 30 minutes cinéma. Et puis du coup aujourd'hui je suis accompagné par deux invités prestigieux, Guillaume et Johan de Rokirama. Donc bonjour à vous, présentez-vous en deux mots.
Salut, Johan donc de Rokirama, accessoirement rédacteur en chef du magazine.
Bonjour et Guillaume, modeste contributeur du magazine Rokirama depuis le début.
Depuis, du coup ?
Depuis le début, depuis le premier gros livre qu'on a sorti sur les années 80, Guillaume a été le premier contributeur et je pense la première personne à qui j'ai parlé de Rokirama.
D'accord. Donc aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va parler du grand, du très très grand Shane Black. Scénariste, réalisateur, un peu acteur à ses heures perdues, mais voilà, quelqu'un qui a compté dans le paysage... et qui compte toujours dans le paysage cinématographique américain. Donc pour ce faire, on va parler d'abord en deux minutes de Shane Black sur son œuvre, et puis après on déroulera un peu sa carrière, je dirais un peu globale. Alors Shane Black, déjà pour commencer, peut-être qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce qu'il a apporté au cinéma, et qu'est-ce que, si je vous dis Shane Black, à quoi vous pensez spontanément ?
La Lame Fatale.
Ouais.
Enfin, je vois pas trop... Enfin si, aujourd'hui on peut penser à plein... à plein d'autres choses, mais moi, Johan, en tant que spectateur et amateur de cinéma, forcément, ça me rappelle tout un pan de mon enfance, avec l'apparition, pour moi c'est la naissance du buddy movie moderne, L'Arme Fatale, avec tout ce que ça peut comporter et tout ce que ce film comporte de, comment dire... à la fois blockbuster quasi inattendu et qui transporte avec lui plein de thématiques de fond graves, et d'ailleurs il a aussi presque inventé ce personnage dépressif moderne.
Ouais, du héros, enfin on va en reparler, ouais, d'anti-héros. Et toi Guillaume, tu dirais quoi ?
Shane Black, c'est Hollywood, c'est l'acteur majeur pour moi de la fin des années 80 et du début des années 90. Il est complètement dans l'ombre de Tarantino, mais pourtant c'est exactement la même approche, c'est les mêmes références, c'est le même amour du cinéma. Ils étaient jeunes quand ils ont commencé, ils ont eu du cul aussi, c'est très important. Ils ont rencontré les bonnes personnes, Joel Silver pour Black et Bender pour Tarantino. Et c'est le meilleur représentant de la pop culture qu'Hollywood ait eu depuis 30 ans maintenant. Et Johan cite L'Arme Fatale, forcément, oui, c'est même drôle aujourd'hui de constater que ce film, sans avoir pris une ride, est toujours indépassable. C'est comme film de boxe, c'est Rocky, Buddy Movie, c'est L'Arme Fatale, jamais.
Pour moi, je dirais, c'est vrai qu'il a une relation particulière avec Hollywood, on va le voir, hein, parce que c'est une déclaration d'amour, puis après il s'est un peu fâché, brouillé. Pour moi, le film qui représente le plus cette... ces deux facettes-là, c'est Last Action Hero, quoi. Qui pour moi, du coup, après, certains diront que c'est à partir de là qu'il a vraiment. C'est quasiment le film un peu méta de sa propre filmographie.
Ouais, mais il n'initie pas le projet. Donc c'est
il l'a réécrit, effectivement. Effectivement, c'est peut-être moins représentatif de.
Il l'aurait pas écrit, ce film. S'il avait dû le faire de A à Z, il l'aurait pas fait.
Et pourtant, je trouve que ce film, il a imprégné vraiment de son style,
tout.
Mais du coup, on va reparler, ouais. Du coup, pour démarrer, peut-être, c'est vrai que Shane Black, pour présenter un peu le bonhomme, nous, on est enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis un enfant des années 80, puis 90. C'est vrai qu'il a bercé mon cinéma, comme tu le disais, il a forgé toute notre culture sur la figure du héros, de l'anti-héros moderne, en fait. Et c'est vrai que son apport est considérable. Je pense qu'il est vraiment sous-estimé, même encore, hein, à l'heure actuelle, je trouve, sur ce qu'il a pu apporter à toute cette tranche du cinéma-là. Et c'est vrai qu'il a démarré, on peut le dire, comme scénariste. Et en fait, très vite, il a eu du succès, il est parti très vite, très fort, quoi. Enfin, en vendant, du coup, son script de L'Arme Fatale à la Warner.
Joel Silver. Heureusement, heureusement qu'il a eu cette chance, mais il était très jeune. Et, c'est un passionné de littérature policière, c'est un passionné de cinéma. Il est... tout se voit, d'ailleurs, dans ses références. Et ce qui est... appréciable dans son boulot, c'est que c'est comme Tarantino, en fait. Ça se voit, mais il y a tellement plus, et contrairement à Tarantino, par contre, il est parti dans un... pas dans un délire de référencer ou de mixer, de faire le DJ avec ce qu'il aime, mais d'essayer de créer un truc complètement nouveau. C'est pour ça que L'Arme Fatale, on en revient là, c'est incroyable parce que c'est le. Aujourd'hui, c'est l'archétype, tu peux pas faire plus dénominateur que Martin Riggs et Roger Murtoff quand tu parles d'un buddy movie. Mais il est très vite parti de ça, et puis parce que ça l'intéressait pas non plus de. Le côté sitcom qui a pris la saga. C'est cool, hein, moi j'apprécie, mais c'est pas du tout son boulot. Lui, il aurait tué Martin Riggs si John Silver avait dit, ah ben non.
De toute façon, dès l'épisode 2, la saga, elle est biaisée. Elle est biaisée par Silver, de toute façon.
Oui.
Qui veut pas tuer...
Mais c'est vrai qu'en fait, c'est là où c'est très fort, c'est que souvent, ces films ont été pris comme des films d'action, au départ un peu léger, mais quand on creuse, en fait, derrière, il y a une forte mélancolie, quoi. Comme tu dis, bah, c'est imprégné du film noir. Il est parti un peu de là avec les codes des films noirs.
Quand on regarde L'Arme Fatale aujourd'hui, quand on recommande de ne pas voir toute la tristesse du personnage et le.
Il y a quand même une tentative de suicide.
Et le côté crépusculaire, mais c'est inégalable. C'est pour ça.
Mais comme dit Guillaume, et c'est là où nous, on va le trouver peut-être plus intéressant sur la longueur à Tarantino. On fait beaucoup le parallèle parce que pour nous, c'est vraiment. Voilà, c'est les deux fers de lance tant que scénariste quasiment. Et là où, comme dit Guillaume, c'est qu'il est plus novateur, quelque part. Là où Tarantino va faire remonter des choses qu'il a appris, c'est vrai qu'il va remettre tout un pan de la pop culture au premier plan. Shane Black, lui, il va constamment réinventer des choses.
Ouais.
C'est le milieu qui compte pour Shane Black. C'est de quoi il a envie de parler et de quel type de personnage il a envie de traiter. Quand tu vois Le Dernier Samaritain, c'est un film sur le milieu du sport professionnel, du foot en l'occurrence, du foot US. Et c'est très très risqué à l'époque aux États-Unis. D'ailleurs, la NFL n'est jamais citée directement dans le film. C'est d'aller voir là où ça n'a pas encore été fait. Au revoir à jamais, c'est pareil. Enfin, tu peux prendre toute sa filmo jusqu'à la carotte qu'il plante à Marvel en faisant Iron Man 3, qui est le seul bon film de toute cette saga nous a offert jusqu'à présent, parce que c'est différent. Et surtout, ça répond
à des... C'est le film Marvel qui est le plus imprégné de la patte de son auteur.
C'est
quoi.
Le seul très bon film Marvel. Il y a le Gardien de la Galaxie qui est bon, mais très bon, il n'y a que celui-là.
De ses auteurs, pardon. Ouais, non, parce qu'ils sont deux scénaristes, c'est drôle de penser que peut-être que la majorité des références, justement, à L'Arme Fatale, elles ne viennent pas de Shane Black, mais de son co-scénariste, qui est certainement... ça, je l'ai pas lu, mais qui est certainement fan de Shane Black.
Je l'ai lu. Il est fan de Shane Black.
C'est Drew Pearce, hein, c'est ça, je crois, il me semble.
Aucune idée.
Mais
ça restera comme le mec qui a bossé avec Shane Black.
Mais pour revenir du coup à ses débuts, c'est vrai que c'est un type qui a démarré en partant de rien, très jeune. Enfin, il avait 23 ans quand il a vendu le script de L'Arme Fatale. Et je crois qu'il avait écrit parallèlement The Monster Squad, qui est finalement son tout premier travail. Et ensuite, donc très vite, il a vendu L'Arme Fatale. Et ensuite, on connaît un peu la suite, c'est-à-dire que ça a été le premier script aussi vendu à plus $1 million, qui est Le Dernier Samaritain. Et puis très vite...
C'est l'esprit de compétition qui animait Hollywood à l'époque, Schwarzenegger contre Stallone, Joey Zartas, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui a fait Basic Instinct.
Esteras
contre Shane Black, justement, qui vendrait son scénario le plus cher, soit à Joel Silver, soit à la Carol Co. Après, aujourd'hui, ça reste un détail, parce que lui, ça lui a permis de s'acheter une grande baraque. Il adore les chiens, donc il a des chiens. Il a fait exactement ce qu'on décrivait l'année dernière quand on parlait de Mad Max à la sortie, comme George Miller. Il est tellement bon que le mec a pu se mettre en dehors du système et entre parenthèses. Il a aussi fait une dépression, il s'est senti très mal.
C'est là où on voit que c'est imprégné dans tout son cinéma, c'est qu'on voit l'évolution de Shane Black. C'est un peu comme Rocky finalement, quoi, qui est l'évolution de la carrière de Stallone, mais qu'on voit au cinéma.
Ouais, et là, contrairement, je suis d'accord que tu fasses ce parallèle, mais Shane Black n'avait pas besoin d'Hollywood. Par contre, Hollywood avait besoin de Shane Black, c'est pour ça qu'il est revenu. Bang Bang, c'est quand même... De toute façon, Joel Silver lui a salopé L'Arme Fatale, et en même temps, il n'y a pas Shane Black sans Joel Silver, parce qu'ils sont pratiquement dans le coup tout le temps ensemble. Et c'est Joel Silver qui lui propose de pouvoir faire Kiss Kiss Bang Bang, et Kiss Kiss Bang Bang, c'est quand même une ouverture à Cannes, ce qui n'est pas rien.
Il lui offre.
Ouais.
Puis il lui dit, tu m'as tellement fait gagner d'argent avec L'Arme Fatale que je peux bien t'offrir celui-ci, je viens de donner 25 millions pour le faire.
Et là, il relance Shane Black et Robert Downey Jr. aussi, avec Kiss Kiss Bang Bang, quand même, qui aura lui-même l'idée de dire à Marvel, bon, si vous voulez qu'on fasse un bon film, il faut appeler un vrai mec, donc voilà.
Alors, c'est que John Favreau, quoi.
C'est vrai que du coup, si on repart là encore un peu des débuts, donc si on définit un peu le style Shane Black, donc moi je suis tout à fait d'accord à ce que vous disiez, hein, c'est-à-dire que c'est un type qui s'est interrogé, finalement, si tu vois la cohérence de son œuvre, c'est vraiment quelqu'un qui s'interroge sur la condition de héros, sur la figure du héros, de qu'est-ce que c'est un héros aujourd'hui dans un film. Et puis avec des motifs récurrents, bon ça relève un peu peut-être de l'anecdote, mais on voit qu'il y a quand même des récurrences scénaristiques, parfois des toutes petites choses, enfin que ce soit sur la périodicité, donc souvent ces films se passent à Noël, donc l'association des personnages est souvent donc toujours cette allure de buddy movie avec un black et puis un blanc. Parallèlement à ça, l'explosion de la maison dans L'Arme Fatale 2, on se dit que ça vient un peu de lui, ce qu'on le retrouve dans Iron Man 3.
Comme tu dis, ça c'est du détail, c'est des figures de style, mais ce qui imprègne son œuvre, vu qu'il a fait que deux films jusqu'à présent, on peut pas forcément parler. L'action est importante pour lui, dans L'Arme Fatale, dans tous ses films, les scènes d'action sont bien écrites. Alors, mais quand il est scénariste, qu'est-ce qui lui appartient au final dans une scène d'action? Qu'est-ce que Tony Scott retient des lignes de Shane Black dans Le Dernier Samaritain? Aucune idée. Il y a une poursuite en voiture, tout ça. Lui, c'est vrai que c'est de la littérature qui l'intéresse au premier plan. Tarantino se dit écrivain avant tout. Il dit, moi, je suis écrivain, j'écris des histoires, après, je les filme. Je pense que Shane Black, c'est exactement pareil. Vu l'amour inconsidéré qu'ils ont justement pour le roman, en général, et ça se voit parce que ce qui compte le plus dans leur boulot, c'est l'architecture du scénario qui est toujours parfaite. Il n'y a jamais de temps mort. Tout est mis en place dès le début avec brio. Tu sais jamais... tu sais toujours où t'es, et en même temps, t'as toujours cette surprise de merde, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se manque? C'est un super exemple. On revoira jamais aussi, duquel on n'a pas encore parlé, où c'est des rollers continuels ces films. Tu t'emmerdes jamais, ils te racontent plein de choses à l'intérieur. Effectivement, le héros, c'est ce qui compte le plus pour lui, parce que je pense qu'il parle tellement de lui dans ses films et à travers ses personnages principaux que c'est que tout déborde. Robert Downey Jr. dans Kiss Kiss Bang Bang, il est largué et en même temps il arrive à maîtriser une histoire au final qui était ingérable tout en allant chercher au fond de lui dans ses souvenirs où tout est connecté. C'est exactement ce qui motive son cinéma depuis le début. Donc l'action, comme les clins d'œil, ouais, je suis d'accord, mais je crois pas que ça fasse vraiment la sève de son cinéma.
Ouais, je pense que ça relève plus du tria qu'autre chose, effectivement, mais ce qu'on voit, c'est qu'au fond, je trouve qu'il part des codes du film noir, vraiment, comme tu dis, avec les bad guys, souvent, qui sont dissimulés un peu derrière un lourd secret ou derrière quelque chose d'un peu plus géant, en fait, d'un peu plus grave, derrière une structure, finalement, et puis le héros, du coup, qui va un peu transgresser les règles, qui va un peu franchir les limites, franchir des caps du côté de la loi quasiment, et puis au fond sur une intrigue un peu noueuse avec plein d'arborescence, plein de choses comme ça.
Parce qu'il veut que le public en ait pour son fric, en fait, tout simplement. Lui, ce qui l'intéresserait en tant que spectateur, je pense que c'est ce genre d'histoire, et c'est pour ça qu'il les écrit comme ça. Il y a toujours un, sans dire qu'il y ait forcément un twist, mais il y a toujours un retournement de situation dans ses films, et puis tant mieux d'ailleurs.
Et puis derrière ça, avec finalement tous les codes que lui-même a définis quasiment des films d'action, en fait. Enfin, l'action moderne, telle qu'il lui l'a définie. Et effectivement, je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça s'enchaîne à un rythme frénétique. Et c'est là qu'on voit que son cinéma, je trouve, est partagé en fait ces deux aspects un peu de genre. On les retrouve aussi à travers les tons. Enfin, je trouve qu'il y a toujours un peu un ton très dépressif, masqué par la légèreté, parce qu'on l'a... Enfin, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais grosso modo, c'est le meilleur one-liner, enfin punchliner de tous les temps, quasiment, quoi, avec Tarantino, en fait. C'est les deux meilleurs aussi.
Pour les punchlines, il est bien meilleur que Tarantino.
Ouais, il est même meilleur.
Tarantino, son truc, c'est qu'il écrit des dialogues, c'est sur la longueur. Tu vas retenir une phrase par-ci, par-là, mais c'est vraiment sur la longueur que toute l'ambiance s'installe. Shane Black, avec juste une phrase, il peut te faire une scène. Ça, Tarantino, il n'en est pas capable encore. Mais après, c'est pas la même.
Effectivement, c'est des répliques qui restent complètement ancrées dans l'inconscient collectif. Hein. On connaît tous les répliques de l'arme, que ce soit L'Arme Fatale, Dernier Samaritain. Alors, c'est vrai que, bon, on a un peu parlé, mais il y a eu quand même, entre-temps, effectivement, l'épopée un peu L'Arme Fatale 2, parce que je crois qu'il a participé au traitement, c'est ça, hein, bah, il me semble, mais derrière, ça a été réécrit. Il se l'est fait voler, effectivement, par Silver.
Enfin, il se l'est fait voler. Il a quand même dû toucher un bon chèque. Mais oui, c'est pas sa série. Après, L'Arme Fatale, ça n'est pas sa série. Et puis, tu voulais parler de Monster Squad, je pense.
Ouais, Monster Squad. Alors, moi, j'en garde un souvenir. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je l'ai découvert en étant un jeune adulte, maintenant. Du coup, je l'ai moins peut-être apprécié à sa juste valeur que si je l'avais découvert gamin, je pense. Voilà, mais ça reste un très bon film quand même, hein, qui est une bonne synthèse aussi.
C'est un film culte.
Oui.
Sans... Un film culte beaucoup moins grand public que L'Arme Fatale, mais aux États-Unis bien plus connu qu'ici en tout cas.
Mmh. Non, parce qu'il est à peine sorti chez nous et que ouais. Là pour le coup il traite encore une fois de la pop culture au sens le plus large du terme, les monstres. C'est pas un bon film, hein. Enfin, moi je peux pas considérer que ce soit un bon film, mais c'est un bon trip et je pense qu'après L'Arme Fatale c'est ce qu'il fallait qu'il fasse, un truc beaucoup plus léger, beaucoup plus mais référencé. Et ça, aujourd'hui, ouais, c'est une saveur en fait.
Mais quand tu dis qu'il définit l'action, je sais pas exactement si on peut dire ça, parce que lui, pour moi, le moment où les planètes s'alignent, c'est avec Tony Scott sur Le Dernier Samaritain. Parce ouais. que L'Arme Fatale, au final, voilà, si tu me demandes de choisir entre les deux films.
T'as un artisan et t'as un vrai auteur de l'autre côté.
Bah, je te dirais, je garde L'Arme Fatale parce que voilà, c'est Rix, Murtoff, machin, c'est
plus romantique.
L'enfance, machin et tout. Mais Le Dernier Samaritain est un bien meilleur film.
Ouais.
Parce que Tony Scott a la réelle. Et ça change quand même beaucoup de choses par rapport à Richard ouais. Donner.
Il y a un vrai metteur en scène.
Un honnête artisan, Richard Donner. Mais Tony Scott était par contre un inventeur d'images.
C'est vrai que du coup, c'est un peu ce qui peut-être le différencie finalement de Tarantino, si on revient sur la comparaison avec Tarantino, c'est que lui, il est resté scénariste, il n'a jamais réalisé, enfin jusqu'à tardivement en fait, il est resté scénariste, et du coup...
Mais il a fait sa vie en fait, il a fait sa vie dans Hollywood, il a fait sa vie... Moi c'est pour ça que je trouve son destin prodigieux, c'est qu'il a pris son temps, il a eu des problèmes, il a choisi d'attendre, d'être patient... Il a tourné autour du pot, bon bah il est riche donc de toute façon il a pas vraiment de soucis à se faire pour aller trouver un toit ou bouffer, donc c'est aussi un luxe. Mais il a assuré justement parce qu'il a pu un peu décider aussi de son comeback. Il a mangé son pain noir, il a quand même été tout en haut de la chaîne alimentaire pendant 5 ou 6 ans, ce qui est quand même exceptionnel pour un scénariste à Hollywood. Et aujourd'hui je pense qu'il savoure. Là il est plus Il a le parcours du mec qui aujourd'hui a plus rien à prouver, je pense. Et c'est pour ça qu'il sera encore meilleur, certainement.
Mais la grande différence entre Tarantino et Shane Black, c'est que Tarantino, il est adoubé par le Festival de Cannes dès ses débuts. Alors que Shane Black, voilà, il faut attendre 2016 pour le voir monter les marches. Donc la reconnaissance, entre guillemets, cinéphile...
Ouais, bien, du milieu, enfin
du milieu du ouais, cinéma hors,
en France, je pense, parce que à mon avis aux États-Unis il est quand même moi dans mes souvenirs c'est quelqu'un qui est quand même respecté.
Ah, mais après tu peux pas briguer les mêmes félicitations, les mêmes remises de prix quand tu écris Le Dernier Samaritain ou Au revoir à jamais que quand tu fais Pulp Fiction ou Inglourious Basterds. Ce qui est cool pour nous dans le travail de Shane Black, c'est que c'est Tarantino aussi, c'est la rue, mais Shane Black c'est Grindhouse, mais un autre versant du Grindhouse, en fait. Et du fait qu'ils soient arrivés pratiquement en même temps, les deux, parce qu'ils ont approximativement le même âge, peut-être que Shane Black est légèrement plus vieux, mais les deux destins croisés, où t'as la vraie politique de l'auteur, comme Hollywood réussira à la vendre dans les années 90, et puis le scénariste de studio, classique, qui pond des succès, qu'on s'arrache et que tu imagines dans sa vie là en train d'écrire.
Donc c'est vrai qu'il y a aussi quand même quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est aussi le succès public. Dire qu'il est parti très vite, très fort, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il y a quand même une période de vache maigre. Enfin, c'est-à-dire qu'il a quand même à un moment donné essuyé des bides au box-office, quoi. Last Action Hero, malheureusement, moi ça me fend le cœur parce que c'est un film qui a été réhabilité plus tard dans les vidéoclubs, mais voilà, c'est un film qui a pas du tout marché au box office. Et puis Au revoir à jamais, qui a quand même cartonné des masses.
Last Action Hero, il a le malheur d'avoir un concurrent qui va tout fracasser en face.
Ouais,
qui est sorti le jour même, je crois, non?
Je sais plus si c'est le jour même, mais ça a été, ça a scellé le cercueil de McTiernan.
Et d'ailleurs, il s'en moque dans le film, parce qu'il y a un clin d'œil à Jurassic Park dans.
Oui.
Dans Last Action Hero.
Et oui, bien sûr.
Mais après, moi, je disais tout à l'heure qu'il n'est pas à l'origine du projet. Bon, après, il y a tout Shane Black dedans, il y a la manière dont il décortique la société du spectacle, le spectacle, tout ça, c'est typiquement lui. Et il est venu à la rescousse aussi pour McTiernan, parce que le film, ça a été un développement complètement catastrophique. Bref, de toute façon, ce film, tout le monde le connaît. Et c'est rigolo de voir qu'il est aussi capable de s'approprier
un film qui est réécrit.
Et à la fin, on le retient comme un film officiel de Shane Black, même si pas sûr que ce soit le cas, mais en tout cas, nous, on garde comme ça.
Ouais, bah, on le garde comme ça aussi, parce que, pourquoi? Parce que là encore, on retrouve quand même par petites touches, un peu ce que je disais tout à l'heure, l'espèce de tria, par exemple l'association avec un gamin, ça c'est des choses qu'on avait déjà vues, même dans L'Arme Fatale déjà, mais avec...
L'originalité, le sens du rythme.
Surtout. Oui, voilà, l'originalité, le sens du rythme, évidemment. Le questionnement sur la figure du héros, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve.
Oui.
Évidemment, c'est...
Elle est totale.
Elle est totale, et puis elle est frontale même, je dirais. Et puis, voilà, comme vous disiez, l'espèce de synthèse un peu de la pop culture. Et puis avec derrière, quand même, les punchlines, on sent le style de Shane Black.
C'est un film qui se ramasse totalement au box-office, et pourtant, il arrive là, au moment où il doit arriver. Mm. C'est-à-dire à la toute fin...
Toute fin des années 90. Fin des années 90, pardon.
Début des années
90. Début des années 90, ouais,
pardon. Quelle année
93.
Voilà, ouais, début des années 90, c'est le moment... il arrive au bon moment, il est avec Schwarzenegger, et Schwarzenegger ou Stallone, c'est eux qui doivent faire le bilan des années 80. Donc voilà, c'est un film bilan, c'est un film somme, mais qui passe à côté de son public totalement.
Mm. Bah parce qu'il est beaucoup trop exigeant aussi. Quand tu le revois aujourd'hui, tu dis quand même, le mec à la fin parle de Fritz Lang ou tout ça, je sais pas.
Bah, encore
si ça,
aujourd'hui.
Si ça intéresse.
Aujourd'hui, impossible de voir un film comme ça.
Et c'est vrai que.
Bougé par un studio.
Après, pour déboucher un peu sur la suite, il y a la Revoir à Jamais, qui est un bide. Pourtant, qu'il a vendu très cher, hein, plus de 4 millions de dollars, je crois. Hein. C'est ce qui est exceptionnel à l'époque pour un scénariste. Ce film qui est quand même très bon, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve très bon aussi, qui a été quand même, il me semble, à l'époque laminé par les critiques. Qui envoyait juste quelque chose d'amusant, de récréatif, mais qui du coup voyait pas toute l'articulation qu'il y avait derrière avec toutes les thématiques qu'on a déjà décrites, mais qu'on retrouve bien.
En termes de scénario, c'est certainement meilleur Rainer Harlin.
Ouais.
Moi, je me rappelle, je suis allé le voir le jour de la sortie de ce film, effectivement, parce que c'était Shane Black et Rainer Harlin, donc c'était une petite saveur à l'époque, parce que Rainer Harlin, on pensait pas que ça virerait quand même la catastrophe comme ça, jeunes que nous étions. Et c'est surtout c'est Kill Bill 7 ou 8 ans, parce que c'est une espionne, elle est amnésique, elle est laissée pour morte, elle se ferait un chemin dans une société de mecs, il y a Samuel Jackson qui, pas la peine de le rappeler, c'est quand même l'acteur fétiche de Tarantino, c'est du girl power que t'avais encore jamais vu, jamais dans cette dimension, c'est comics aussi beaucoup, enfin voilà, c'est effectivement un de ses meilleurs films. Peut-être un de ses meilleurs scénarios.
C'est vrai que le film, il a un côté comic bookish un peu. Ouais, c'est vrai que effectivement.
De toute façon, la culture pop qui défend Tarantino et Shane Black depuis le début, les comics en font complètement partie. Tu le sens chez Tarantino parce qu'il lui fait souvent référence. Et puis bon, Shane Black, il a carrément jusqu'à réaliser un Iron Man. Donc.
Du coup, je crois que c'est Zach Penn qui a écrit le scénario de Last Action Hero, le premier traitement en tout cas, qui a présenté du coup, qui est scénariste des Avengers et de l'incroyable Hulk et compagnie, qui a présenté du coup Shane Black à la Marvel. Il me semble. Et avec Donnie Junior, évidemment, qui a fait le lien. Et du coup, c'est comme
mais
ça qu'il a
atterri. Mais il a au moins fait un bon truc, c'est bien.
Ouais. Et voilà, donc pour revenir un peu, là, c'est la première partie de sa carrière. Et
ça
puis,
sent,
du coup,
qu'on adore Marvel.
Bon, ça, c'est un autre débat. Hein. Mais,
non, pour le coup, non, ça n'est pas un autre débat. Parce
non,
que...
c'est pas un autre débat, mais...
Quand ouais. un auteur de la catégorie de Shane Black se ramène justement aux commandes d'un film où tu sens qu'il a en plus toute la, on en parlera plus tard, mais toute ouais. la latitude de faire ce qu'il veut, non, ça change tout.
Bah là du coup donc on en était à la partie un peu scénariste et puis du coup comme tu disais hein, il a appris un peu, je pense qu'il a traîné longtemps pendant les fêtes hollywoodiennes, enfin il s'est immiscé à Hollywood jusqu'à sa dépression, je pense, à ce moment-là, à mon avis, où il a couvé quand même quelque chose. Et puis, Kiss Kiss Bang Bang, qui est le renouveau, comme vous disiez, Silver qui lui a rendu, en quelque sorte. Et puis là boum, reboot, quoi. Enfin, reboot. Redécouverte de Shane Black, puisqu'on découvrait en tant que réal, avec son style, évidemment, propre. Mais c'est là qu'on voit qu'il est quand même capable de transfuger aussi en tant que metteur en scène et être capable de... d'être bon quoi, enfin je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que la mise en scène elle est bien quoi.
Je pense qu'il a beaucoup appris au contact de Tony Scott, de Mac Tiernan, même Donner. Voilà, c'est aussi l'enfant de ces réalisateurs là, évidemment.
Avec deux stars déchues à l'époque quand même, hein, Val Kilmer, Robert Downey Jr. c'est plus rien à cette époque là il me semble, et qui l'a complètement réhabilité, enfin je pense que sans je suis pas certain que Donnie Jr. Serait tombé dans Iron Man sans
Travolta avec Pulp Fiction. Donc on peut, de toute façon, on pourra passer l'après-midi là-dessus, mais voilà pourquoi Tarantino et Shane Black, c'est exactement le même ADN. Même si c'est pas la même approche, c'est le...
Et on les oppose pas. Hein.
Ah bah non, ils sont complémentaires, totalement. On adore les deux, donc ça nous paraît pas du tout étrange de les confronter. Mais qu'est-ce qui se manque? Oui, c'est une réalisation très classique, très propre. C'est exact. J'imagine que The Nice Guys sera exactement dans le même esprit. Oui. T'es pas paumé. Ouais, je trouve qu'il y a du Donner et du Scott dans ce film. Voilà, c'est... Pas du McTiernan quand même, faut pas déconner.
Ouais, pas du McTiernan. Dans l'action, il y a pas de mouvement.
Mais parce qu'il a pas envie. Je pense que lui, c'est son histoire qui compte avant tout ses personnages. Le tout l'imbriglio qu'il y a avec Robert Downey Jr. au début, qui est pas acteur, qui arrive dans des fêtes hollywoodiennes, justement, faut qu'il
parle. C'est Shane Black lui-même, je pense.
Oui, puis faut qu'il parle d'Hollywood parce qu'il adore ça et il le décrit tellement bien.
C'est le film aussi un peu postmoderne, quoi. C'est l'après. La synthèse des années 90, finalement, avec toute la dimension méta qui était propre à ces années-là et qu'on retrouve évidemment dans Kiss Kiss Bang Bang, ouais. Et puis après...
C'est surtout, alors, fait une parenthèse très importante, là, pour le coup, c'est vraiment sa déclaration d'amour au roman noir à Chandler et compagnie, parce que c'est un film qui se passe dans les années 2000, mais qui tu peux rechanger tous les décors et le faire se passer dans les années 50, et c'est pareil.
Ouais, bah, bien sûr, en effet, ouais. Et puis, effectivement, on retrouve tout ce qu'on a déjà dit, hein, l'intrigue noueuse, un peu, les codes du film noir, ouais. Et puis après, donc, c'est Marvel. Marvel, en effet... alors, c'est vrai que c'est un film qui est décrié, hein, Iron Man, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, ont dit que c'était passé au rouleau compresseur Marvel, qu'on détectait plus son style, alors que moi, je trouve pas du tout, au contraire, quoi. C'est vraiment un film qui est vraiment, il y a tout Shane Black dedans, quoi. On retrouve vraiment tout, quoi, tout ce qu'il fait. Et même sur la condition de héros, qu'est-ce que c'est être un super héros, qu'est-ce que c'est être un homme et son alter ego avec l'armure. Enfin, je trouve qu'on retrouve vraiment tout ça, quoi.
Bah oui, les vraies questions d'Iron Man, elles sont dans ce film-là. Qu'est-ce qui
fait, et avec quand même un héros,
fait le super héros, est-ce que c'est l'armure, est-ce que c'est l'homme, enfin voilà.
Et avec un héros quand même terriblement dépressif, quoi. Enfin, il a pris un peu le ce qu'il y avait dans l'épisode d'avant, qu'on voit.
Mais
un
tu
peu
peux
boire.
Pas d'avoir dans l'œuvre de Shane Black, tu peux pas avoir d'accomplissement si t'es pas dans le mal. Donc c'est l'épreuve, forcément. C'est le parcours du héros, de toute façon c'est homérique, hein, c'est tu t'en chies et puis à la fin justement tu réussis à faire ce que t'as à faire. Je refais encore un clin d'œil à Tarantino, mais au début, John Favreau est quand même déguisé en Travolta dans la scène d'intro en 99, le Travolta, ouais, de Pulp Fiction. Là, il lui rend directement hommage en faisant ça, je trouve que c'est super brillant. Et ensuite, il a aussi beaucoup, avec Yohan, on était d'accord en sortant de la salle, il tient aussi beaucoup de l'Empire Contre-Attaque, ce film, parce que rien ne marche jamais. Son armure, c'est le Faucon Millennium, ça, elle ne veut pas marcher, et c'est le petit détail de scénario qui nous fait avoir un film Marvel qui a rapporté plus $1 milliard avec Iron Man, tant de présence à l'écran, peut-être 5 minutes ou 7 minutes.
Ouais, et puis il l'avait dit lui-même que c'est un film aussi qui a tous les codes du film d'espionnage. Enfin, c'était un peu son intention aussi au départ avec,
bah, mais
avec
espionnage, ce climax. Espionnage, il maîtrise quand tu vois Au revoir à jamais, même si c'est action-espionnage, ça lui paraît pas vraiment compliqué à gérer comme genre.
Et puis, on compte plus les références à l'arme fatale dans ce film.
Ah oui, bah oui, oui, le climax de, dans, enfin la maison sur pilotis là,
oui, disait, à la fin il renoue le
climax dans les docks avec le Meurtreau, voilà. Meurtreau et Riggs, évidemment, voilà. Et puis on retrouve aussi l'association avec un enfant, ça me fait penser un peu à la Station Hero aussi. Enfin, on retrouve vraiment tout ce qui fait celle de Shane Black, quoi.
Chez Shane Black, la famille, c'est très très important, et c'est d'ailleurs pas anodin qu'il choisit souvent le contexte de Noël, qui est le moment familial par excellence.
Et puis voilà. Et puis du coup voilà, ben on en arrive à la suite. La suite, du coup, c'est la sortie de The Nice Guys très bientôt, là, projetée au Festival de Cannes. Et puis Predator. Donc il a été effectivement annoncé à la réalisation d'un reboot de Predator, un reboot qui coûtera quand même la bagatelle de 100 millions, je crois, hein. Il se fait un bon gros blockbuster.
Bah, tu refuses pas 100 millions à un mec qui a fait gagner $1 milliard à un studio, quoi.
Sachant que, pour revenir un peu, c'est un peu finalement la boucle qui est bouclée, puisqu'il avait démarré aussi en tant qu'acteur dans le Predator de McTiernan, hein, avec ce sergent Hawkins, ce mercenaire un peu blagueur.
Ce fameux plan à la fin où il est en train de lire un comics.
Sergent Rock.
Sergent Rock, qui peut-être un jour, on ne sait pas.
Qui devait adapter pour Schwartz, je crois, à l'époque, ou je ne sais plus quoi.
Ouais, il y avait quelque chose comme ça, en effet.
Bah, The Nice Guys, on attend. Avec
on attend.
On a annoncé le film de l'année, quoi qu'il arrive. Même si on est déçu, ce sera le film de l'année, on en parlera.
En tout cas, la bande-annonce est prometteuse et non, clairement c'est
du velours, c'est les années 70, c'est Los Angeles, Russell Crowe, Ryan Gosling, les costumes, lui à l'écriture, à la mise en scène. Je vois aucune raison objective pour penser que ce film sera raté. Kim Basinger.
Il y a Joel Silver, ouais.
Voilà, Kim Basinger, c'est vrai. Donc, ça va être du velours. Beaucoup plus que Spectre.
Pourquoi vous parlez de
Spectre? Parce qu'on avait mis de la caillasse sur Spectre l'année dernière et qu'elle ne fut pas notre déception.
On a perdu tout notre argent sur Spectre.
Spectre, on a pas été remboursé. Énorme déception. Mais c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet, mais Shane Black qui nous fera un film d'espionnage, enfin un James Bond, c'est pas possible, mais à la James Bond, pourquoi pas?
Ouais. Bah, c'est ça un peu, qu'est-ce qui lui reste? Parce que, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que c'est un mec qui n'a strictement plus rien à prouver. Il a déjà fait sa carrière, donc là, ce qui lui reste finalement, c'est de l'amusement. Il peut surprendre encore, hein, il peut surprendre.
Il a fait le Last Action Hero de Marvel, donc je doute fort que vu la
teneur des franchises, tout ça
actuel. Voilà, la direction que prend Marvel, je doute fort qu'il y ait un meilleur film que Iron Man 3 dans tout le catalogue à la fin. Donc ça, il l'a fait, il peut s'en laver les mains, le film de super-héros, il l'a mis derrière lui.
D'un film Marvel, hein, pas d'un personnage Marvel, parce qu'après on peut, pour ma part en tout cas, après on peut discuter par exemple par rapport à Spidey 2, qui est un très grand film aussi.
Ah oui, oui,
ça. Ah oui, non, mais oui, mais là on parle Marvel Studio. Ouais.
Oui, oui, oui.
Moi j'aime bien Captain America 2 aussi, mais bon.
T'aimes bien le Dark Knight en fait.
De quoi?
T'aimes bien le Dark Knight en fait.
Oui, quand même, mais j'ai...
Bah en fait, c'est pour ça que t'aimes bien Captain America 2, c'est un remake.
Ouais, c'est vrai. Bah, à la base, c'est quoi? À la base, c'est Hit, c'est Michael Mann, les gars, on en revient un peu à...
Ah bah, bien sûr.
Voilà.
Non, moi, ce que j'aimerais, pour terminer, ce que j'aimerais, c'est qu'il se contente d'un script pour un très bon metteur en scène. Ça, c'est un truc... McTiernan qui sera en galère, par exemple, ce serait pas de refus qu'il
lui écrive. Et ouais, mais moi, ce dont j'ai un peu peur, c'est quelle place ils ont aujourd'hui, ces types-là, quoi.
À Hollywood, Shane Black, aujourd'hui, vu qu'il a rapporté...
Non, pas Shane Black.
Non, mais justement...
McTiernan. À bas zéro.
Vu qu'il a rapporté plus d'un milliard à Marvel, Shane Black, je pense qu'il sera en mesure de trouver quelques ronds pour financer un petit film.
Quand tu vois que des mecs se replient derrière des... Enfin, voilà... Moi, je suis attristé de voir un peu l'évolution. C'est, tu vois, des Verhoeven qui... il revient en Europe. Enfin, ils n'ont plus de place à Hollywood, ces types-là. Ils n'ont plus de place. Enfin...
Bah non. Non, mais le pour moi, le rêve aurait été... Silver qui dit à Shane Black, tu vas écrire le script de Predator. Et c'est McT qui va le réaliser.
McTiernan, ouais.
Voilà, c'était...
Ouais, ouais. Mais est-ce qu'ils en ont envie? Est-ce que McTiernan en a envie, tu vois?
Non, McTiernan n'en a pas envie, il l'a dit.
Et puis c'est vrai que lui, c'est comme vous l'avez bien dit, c'est quand même, il a instillé son style un peu, c'est quasiment un coup d'état qu'il a fait à Marvel, quoi. Enfin,
alors que
voilà, c'est des gens aujourd'hui, à part faire ça, tu n'as plus tellement de place.
D'ailleurs, le film,
même The Nice Guys, je suis étonné que ce soit produit, The Nice Guys. Hein.
J'ai presque envie de dire que Iron Man 3, ce qui prouve que c'est un très bon film, c'est que c'est celui qui est le moins aimé en fait.
ça va chercher loin, ça, parce que bon.
Ça veut dire que c'est le plus complexe déjà.
Tu vois,
c'est le moins facile, que c'est le moins abordable.
Mais non, faut pas être surpris qu'il puisse faire The Nice Guys, bien au contraire. Quand tu fais Batman Begins, c'est que t'as du succès, après tu peux faire le Prestige. Quand t'as fait Iron Man 3, derrière les studios. Même si c'est pas le même studio qui abrite le film, tout le monde veut miser un petit billet sur toi, et puis c'est normal.
Je pense que The Nice Guys, il l'a plié pour pas cher. Sauf que c'est un film un peu du milieu, que les films du milieu sont quand même en ce moment en train de disparaître. Enfin, les milieux budget, quoi.
J'ai l'impression qu'ils vont revenir parce que justement, avec la globalisation, avec la Chine, tout ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que ces films-là, à l'international, du coup,
ils ont leur place
et ils se remboursent assez facilement. Un film comme ça ne perdra pas d'argent. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu que ce soit un très gros succès aux États-Unis.
Ouais, ouais, en effet, hein, il est attendu quand même. Il est bien placé là dans l'été.
Il va faire Cannes.
Il y a une belle vitrine. Puis il a quand même un casting avec des acteurs. Bon, c'est difficile de parler de bankable aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai l'impression que on parle plus de brand recognition que d'acteurs. Mmh. Hein, voilà. Sauf si t'es Tom Cruise, mais bon.
Ah, il en reste 2-3, Brad Pitt, DiCaprio.
DiCaprio, Tom Cruise, ouais.
Bon, après, il est distribué en France par Luc Besson.
Ça, par contre, c'est intolérable.
Ouais, ça, c'est intolérable. Là. Désolé, mais là, je vous suis pas. Bon, bah merci en tout cas à vous, les gars. Merci beaucoup pour cet épisode de 30 minutes cinéma.
Merci à toi.
Sur Shane Black, auteur respecté, respectable, que j'aimerais toujours, quoi. Moi, je prendrais toujours du plaisir à revoir ses films. Je les ai tous.
Ce qui est pratique avec le cinéma, c'est que les films sont là, ils bougent plus et tu peux les revoir à l'infini. Donc,
Voilà. Merci en tout cas. Et puis, mot de la fin, peut-être pour Guillaume.
Oh, bah non. À Futurama, on adore Shane Black. On est un peu. Par contre, on n'est pas du tout dans la posture. On se connaît depuis 20 ans avec Johan. C'est un des premiers personnages qui nous a rassemblés. On est extrêmement fan de lui pour diverses raisons, mais c'est pas né d'hier, quoi. Voilà.
On fera une couve avec lui, mais quand on l'aura en interview. Sinon, et ça veut dire une interview carrière.
Une interview fleuve.
Sinon, ça nous intéresse.
Alors, on rêve de faire l'interview croisée Tarantino-Shane Black, parce qu'effectivement, ça pourrait fermer une certaine forme de bouquin. Mais on continuera de parler de lui.
Peut-être pour Predator. Et ben rendez-vous pour Predator, Rocky Rama.
Exactement.
Merci à vous. Allez, ciao.
Ciao.